août 1982, le délit d'homosexualité est enfin abrogé. Et avec lui, les discriminations et la répression.
Pourtant, en novembre 79, voilà ce que pouvaient dire les gens dans la rue.
Maladie, oui. Vous comprenez, oui. C'est une vraie maladie. Il faut tenir à l'agir.
Comme les fous, quoi.
Comme les fous, non, c'est vrai fou. C'est pas comme les fous, c'est vrai fou.
Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes.
Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes?
Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est un vice, quoi.
Comment, sinon faire plier une société en l'ouvrant à la tolérance, aboutira à l'abolition d'une loi rétrograde par les élus? C'est un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette 28e visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, deuxième et dernier volet sur la dépénalisation de l'homosexualité en France. On vient de loin. Prenez un homme de près de 50 ans qui écrit pour se dévoiler sans honte à sa mère.
J'ai écrit l'Étoile Rose en 78 pour expliquer à ma mère qui était son fils.
Dominique Fernandez a été élu à l'Académie française en 2007. Il témoigne dans l'excellent doc d'Emmanuel Hamon, Homosexualité, les derniers condamnés, diffusé sur France 5 et encore visible en replay.
Parce qu'à l'époque, il était impossible pour un garçon qui se découvrait homo de le dire à sa mère. Je ne sais pas ce qui serait passé, elle serait morte sur le coup. Surtout que ma mère était très puritaine, très, très vieux jeu. Elle avait 80 ans à peu près, et je n'ai pas voulu qu'elle meure avant de savoir qui j'étais. Donc j'écris cette longue lettre pour elle. Au lieu de parler avec elle, c'était impossible de lui parler. Donc j'ai écrit ce livre, et ça nous a rapprochés. Au début, elle a été horrifiée, je sais, par ses petits carnets que j'ai vus. Parce que pour elle, elle tombait, enfin je sais pas, c'est comme si elle était criminelle, enfin quelqu'un d'épouvantable. Et elle a compris finalement, elle a compris parce qu'elle était très humaine quand même, et ça nous a rapprochés. J'étais heureux d'avoir fait ça.
Je t'écoute parler, je te regarde vivre, moi qui te connais bien, je ne te reconnais plus. Que tu as changé depuis qu'il vient chez nous.
À 49 ans, ce professeur de littérature italienne est déjà l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages.
Dalida, en 79, depuis qu'il vient chez nous. D'Arvor, alors JT, lance un sujet de Patricia Charnelet, mais avant, une interview non déterminée de l'auteur en 78.
C'est le roman auquel je travaille le plus longtemps. Mon ambition est la plus importante, puisque c'est un roman qui tente de retracer 35 ans d'histoire française depuis la Libération. C'est donc un vrai roman classique, entre guillemets, n'est-ce pas, avec des personnages et des histoires, enfin. 35 ans d'histoire vue d'un point de vue critique, parce que les homosexuels, comme tous les gens en marge, qu'on a mis en marge, ont un regard plus aigu peut-être, plus critique sur les choses que les gens qui sont au milieu.
L'Étoile Rose, c'est le triangle rose que les nazis épinglaient sur les vêtements des homosexuels dans les camps d'extermination. Dans son roman, Dominique Fernandez décrit le ghetto dans lequel sont enfermés les homosexuels. Profondément artiste, mélomane, il trouve dans les voix androgynes des collèges anglais le refus d'un monde qui divise et qui cloisonne. Proust, Genet ou Monterland nous livraient des expériences tragiques ou honteuses. Dominique Fernandez, lui, fait un plaidoyer pour la liberté. C'est la première fois qu'un professeur d'université se déclare ouvertement homosexuel. L'action du livre se situe entre 1943 et 1978. David, le héros narrateur, raconte la vie des homosexuels en province, les rencontres anonymes, la solitude, la honte, la méchanceté aussi.
Dans le milieu parisien et intellectuel, il y a une certaine liberté. Mais dès que vous sortez du milieu intellectuel, si vous allez chez les ouvriers de Renault, ou si vous allez dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, ou si vous sortez de Paris, et à mesure que vous allez dans les villes de plus en plus petites, vous trouvez l'hostilité et le refus total.
Et cette hostilité se manifeste comment?
Mais ça peut aller de la, du ricanement à la brimade. Si vous travaillez dans un bureau, si vous êtes employé de poste, par exemple, au licenciement, vous pouvez perdre votre emploi. Si vous êtes dans l'enseignement, on ne vous dira pas la raison peut-être exacte, mais on trouvera un prétexte. On peut se faire même chasser de son logement, il y a des cas qui sont arrivés. Le racisme anti-homosexuel se rattache au racisme général des Français. La société française est extrêmement
raciste, conformiste. Vous le voyez tous les jours, que ce soit à l'égard des homosexuels ou des juifs ou des arabes ou des travailleurs immigrés ou de tout ce qui ne ressemble pas à la masse, tout ce qui est différent. Et c'est pour ça, moi, je me bats, non pas seulement pour l'homosexualité, mais pour le droit de toutes les minorités à être elles-mêmes, pour que chacun, à condition de ne pas nuire aux voisins, évidemment, puisse être lui-même librement.
L'écriture de Dominique Fernandez n'est jamais indécente. Il enregistre au magnétophone tous ses textes et il les corrige après les avoir écoutés.
J'en connais qui ne serait pas fâché de nous contraindre à sortir marqué du triangle rose au milieu de la poitrine. De même qu'il forçait les juifs, s'ils l'osaient, à se recoudre l'étoile jaune sur le cœur. Tout le monde ne peut pas avoir comme les nègres la couleur de sa peau pour le désigner au mépris.
Postille, non ? Le mot « nègre » ici accuse pleinement ceux qui l'emploient par pur racisme conformiste. Comme à la visite précédente, dans le doc « Les derniers condamnés », Bernard Bousset nous parle de son expérience ici en boîte clandestine, direction le Manhattan à Paris.
C'est une petite rue à Maubert Mutualité. Alors c'était une grosse porte noire. Il n'y avait pas d'enseigne, il n'y a rien. Hein. Avec un Judas à la porte, le Judas s'ouvrait et on nous posait des questions. T'es qui ? Tu viens de la part de qui ? Tu connais qui ? Alors, si on connaissait personne, si on est là, on n'entrait pas. C'était dans des caves voûtées, très humides, sans climatisation, sans rien. On étouffait, on transpirait. Il n'y avait aucune hygiène. Dans ces endroits-là, il y avait comme une forme de libération sexuelle. C'était sordide.
Michel Chemara y avait aussi ses habitudes. Pour lui, elle va se terminer au tribunal.
Il fallait avoir un look, un dress code, un peu dans l'esprit des village people, plutôt cuir. Moi, j'étais pas cuir. Moi, hein. Bon, j'avais un blouson cuir, si, mais j'étais pas cuir caricatural. Avec la, j'avais certaines limites, soit de mon côté provincial, et puis, je sais pas, un côté un peu chicose, quoi. Parce que des fois, c'était quand même, c'était très, très glauque. Hein. Les gens étaient quand même non limite. Hein. Bah, une Manhattan, comme on dit aujourd'hui, c'était une boîte de cul. Hein, j'allais pas siroter un Vichy fraise au rez-de-chaussée. Je descendais tout de suite. Donc déjà, c'était en pleine action, quoi. Il suffisait de se lancer là-dedans avec une musique bon 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 bon. Et voilà, avec du poppers, on est ailleurs, on oublie tout. Et d'un seul coup, police. D'un seul coup, police. On a vu en effet des gens qui sont qui ont déclaré leur fonction de policier. Carte policière à la main, alors qu'ils étaient aussi à poil que nous. C'était d'une confusion, mais totale. J'en ai pas large. Hein. Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit. On nous a mis les menottes. Alors après, il y a eu l'interrogatoire. C'est extraordinaire. Vraiment, le cliché absolu avec la machine à écrire. Tac, 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 tac.
Tribunal de grande instance de Paris, 10e chambre du tribunal correctionnel. Robert, co-gérant associé. Bernard, gérant associé. José, cadre commercial.
Certains étaient décomposés. Chef de publicité. Que j'avais appris après qu'il y avait des hommes mariés, avec enfants, etc. Infirmier. Après, donc la procédure va se mettre en route, puisque c'est passé en trois séquences. Hein. Tribunal d'instance, cour d'appel, cour de cassation. Première instance, c'est en 78, donc un an après. Donc je suis assigné à comparaître avec mes co-accusé, ce coup-là, au tribunal de grande instance, le grand tribunal de Paris. Et j'hallucine, il y avait un monde fou de partout, tout le monde distribuait des tracts. Oui, le président, la cour, ils sont énervés de voir tout ce monde, ce battage, énormément de presse, il y avait je sais pas combien de journalistes. Hein. La revue de presse sur cette affaire, elle est hallucinante. Hein. Alors, ce qu'on appelle maintenant l'affaire du Manhattan, je veux dire, est un repère dans l'histoire des luttes homosexuelles en France.
C'est même l'affaire qui va cristalliser le débat dans la sphère médiatique. Toute la presse en parle, des homosexuels ou non. Pour le coup, le micro-trottoir n'est pas tout noir.
Ils sont comme ils sont, c'est tout.
Vous les comprenez, vous les admettez.
Absolument, oui, j'ai des amis qui sont comme ça et je les aime beaucoup. Et même, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus aimables certaines fois que les autres hommes. Ils comprennent beaucoup mieux certains problèmes et j'aime bien être à leur compagnie.
Paraît-il que dans ma maison, il y en a.
Ça vous gêne ?
Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. Je les côtoie, ils sont charmants.
Ah. Bien sûr, le contexte national, où on sent que la gauche est en train de monter, Et les mouvements homosexuels dont je faisais partie appuient très fort parce qu'on ne peut plus supporter.
Il faut dire que l'on est maintenant à moins de 2 ans d'élection présidentielle. Parmi les premiers à s'exprimer à gauche, il y a un avocat talentueux et médiatique, Robert Badinter.
Au souvent, nous sommes une société dans laquelle certains, parce qu'ils ont un comportement sexuel différent des autres, font l'objet d'ostracisme ou de défense. Et il était temps de proclamer aussi le droit au corps de tous, y compris des homosexuels qui doivent être traités comme les autres. C'est une série de propositions qui s'enchaînent naturellement.
François Mitterrand, vous avez-vous accepté d'être parmi nous ?
Et le 26 avril, pile entre les deux tours, le mouvement Choisir la cause des femmes organise un débat. Invité par Gisèle Halimi, François Mitterrand répond aux questions de femmes telles Christine Ockrent pour Europe 1 et Ménie Grégoire pour RTL.
Et François Mitterrand avait donc prononcé ces quelques mots. L'homosexualité doit cesser d'être un délit. Ça a été évidemment accueilli par les homosexuels, et notamment militants, comme quelque chose d'extraordinaire.
Et notamment dans la rue, à l'instar des gays américains le faisant depuis 10 ans.
Le pavé de Paris a connu cet après-midi la plus importante manifestation en faveur de la liberté de l'homosexualité qui ait jamais eu lieu en France. Homosexuels et lesbiennes, vous êtes concernés par l'élection présidentielle. Ce tract circulait parmi les quelques 5000 participants. Les homosexuels réclament aux candidats un recours légal lorsqu'ils sont victimes de la discrimination dans leur emploi, leur logement, par rapport à la garde de leurs enfants.
Rédaction de l'INA, le 23 juin 2017.
L'année suivante, la manifestation parisienne rassemble 2 fois plus de personnes.
JT du 20h de TF1, le 19 juin 82.
Philippe Madelin.
Homosexuels ou lesbiennes, ils étaient plus de 15 000 militants de tous les groupes français à participer à cette marche pacifique qui a traversé Paris cet après-midi. Les millions d'homosexuels français veulent à tout prix sortir du ghetto. Les homosexuels sont trop souvent victimes de l'intolérance, dans leur emploi, dans leur vie quotidienne. Et la parole publique leur est trop souvent refusée. Et c'était bien le but de cette manifestation, mieux se faire comprendre, mieux se faire admettre.
La simple brève devient un sujet d'une minute trente. Si la télévision relaie les revendications homosexuelles, au sein de la société, tout le monde n'est pas encore sensibilisé aux inégalités.
On pense pas qu'on réprime les homosexuels à travailler.
Ah bah si, moi je suis militaire d'actif, je suis engagé infirmier militaire. J'étais en procès avec la marine à cause de ça, parce que je n'avais pas pu continuer ma profession d'infirmier.
Alors le 10 mai 81, c'était un dimanche, et comme tous les dimanches au Palace, il y avait un tea dance qui commençait à 17h, et c'était le jour des élections. Donc j'avais voté et après on allait au Palace pour, comme tous les dimanches parce que c'était très réputé ce tea dance. Et je me souviens quand le visage de Mitterrand est apparu, il y a une pluie de roses qui est tombée sur la piste de danse.
Mitterrand pense qu'il faut mettre fin à la fois à la discrimination, à la stigmatisation, à la différenciation finalement.
Vous l'avez peut-être connu, Didier Varro. Ici dans Stupéfiant le 5 avril 2022. À l'époque, il n'était pas encore une voix importante de Radio France. Dans le même doc, Gérard Lefort, toujours critique cinéma à Libé.
Bon, ça y est, on vous fout la paix, les flics vous emmerderont plus. Il n'y aura plus la brigade des squares et jardins. C'est des mecs qui venaient castagner les PD qui draguaient la nuit. Hein. Donc voilà, c'est très sympa. Et là, on nous dit c'est fini. Donc joie, bonheur, félicité.
D'un seul coup, tout ça explose du jour au lendemain dans un espace immense qui est le théâtre Le Palace. On est plusieurs milliers, ça danse, ça se drogue, ça se paupérise, tout ce qu'on peut imaginer.
Paupérise, prise de poppers. Bref, la loi est examinée par le Parlement à partir du 29 septembre 81.
Et évidemment, Badinter a eu l'intelligence de choisir des petites fenêtres où les députés sont absents juste avant les vacances de Noël ou pendant les grandes vacances. Et il a fait passer sa loi comme ça.
Mes chers collègues, on peut se demander avec le recul comment des députés français...
Et oui, entre-temps, Gisèle Halimi a été élue députée dans la circonscription du sud de l'Isère. Avocate de formation, et quelle avocate, son discours est particulièrement réussi et convaincant, je trouve.
C'est-à-dire, par définition même, les femmes et les hommes, devant avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisque chargées de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité. Il ne peut pas y avoir de morale sexuelle de tous qui s'impose à la morale sexuelle de chacun. Chacun connaît la nécessité pour l'individu de vivre en accord avec ce qui reste le plus profondément inexprimé, par peur, par honte, par conditionnement social, par répression, je veux dire sa sexualité. Et qu'il s'agisse d'hétérosexualité ou d'homosexualité, nous ne saurions maintenir dans notre droit un texte discriminatoire qui méconnaît une réalité sociale, humaine, importante, et qui, eu égard à la liberté sexuelle que nous avons admise et défendue, ne peut trouver dans la société d'aujourd'hui aucune justification. Je rappelle enfin que François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, et que nous interrogions, interrogé publiquement par le mouvement Choisir le 28 avril dernier, affirmé en réponse à une question consistant à savoir si dans l'hypothèse de son élection, l'homosexualité cesserait d'être un délit, a répondu en ces termes, mais absolument, j'en ai pris l'engagement, l'homosexualité, lorsqu'elle s'expose à la prostitution, à tous les méfaits sociaux, à tous les crimes, doit être réprimée, comme tout autre attentat. Mais il n'y a pas de raison de juger le choix de chacun qui doit être respecté. Aucune discrimination en raison de la nature des mœurs, j'en ai pris, disait François Mitterrand, la responsabilité. Ainsi, c'est bien en dernière analyse de culture et de liberté qu'il s'agit, c'est-à-dire un débat politique par excellence. Notre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dont le texte suit. Article unique, le deuxième alinéa de l'article 331 du Code pénal est abrogé.
Puis, c'est au tour du ministre Robert Van Atter de s'exprimer. C'est digne, c'est beau, c'est évident de justesse. À noter qu'en 1995 sera montée sur scène sa pièce C-33 autour du procès d'Oscar Wilde, depuis disponible en livre.
L'Assemblée sait d'ailleurs quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression-là sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté. Il n'est que temps d'ailleurs, à cet égard, de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines. La discrimination, la flétrissure, qu'implique à leur égard l'existence d'infractions particulières d'homosexualité, les atteint, je dois dire qu'elle nous atteint aussi tous, à travers une loi qui exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations, comme avec toutes les autres qui pourraient subsister encore dans notre société, car elles sont en vérité indignes de la France.
L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels.
Didier Varro.
C'est le paradis, c'est l'Éden, c'est la grande respiration. On vit. On vit avec, en plus, des clubs qui ouvrent et qui ont pignon sur rue, et surtout des bars. C'est l'arrivée du Marais. Tout d'un coup, on peut aller boire une bière, être sur le trottoir avec que des mecs ou que des filles.
Dans cet élan de fierté, filles et garçons s'autorisent enfin à vivre leur homosexualité au grand jour.
La première Gay Pride, je ne sais même pas si on l'appelait Gay Pride, j'y étais. Nous étions 10 000, je peux vous dire qu'on était heureux, qu'on avait les larmes aux yeux de savoir qu'on était 10 000 dans les rues de Paris, mais qu'on se faisait siffler et caillasser en même temps qu'on se faisait applaudir.
toujours stupéfiant.
Le magazine Guépier se vend chaque semaine à des milliers d'exemplaires. Et sur la bande FM, la première radio entièrement dédiée aux homosexuels voit le jour.
Salut les PD!
Au milieu de cet Éden, une radio qui émettait 24 heures sur 24, avec des programmes qui allaient de la musique classique à la politique, à la culture des médias, en passant par des émissions de cul et des émissions d'écoute.
Fréquence Gay, qui est une radio d'humeur, d'amour et d'humour, on ne le dira pas assez, qui est là pour défendre le droit à la liberté des homosexuels.
Cette radio, elle a fait figure de vecteur de libération pour énormément de jeunes générations.
Et ce jour de 82, sur Radio Gay, la fine équipe dont fait partie Didier Varro et où passeront Alex Taylor et Jean-Luc Romero notamment, a invité une star. Et vous verrez, elle semble aussi accessible qu'acquise à leur cause.
En fréquence gay, il y a aussi une autre spécificité. Il y a le phénomène des radios libres, mais il y a aussi le phénomène d'homosexualité, puisque fréquence gay est la radio homosexuelle.
Bien sûr.
Alors, comment vous situez-vous par rapport à tout le mouvement homosexuel qui s'éclate hein, et qui maintenant a sa radio? C'est quand même un fait.
Mais moi, je trouve ça merveilleux. Pour les homosexuels, ça existe, ça a toujours existé depuis toujours. Et c'est merveilleux que maintenant, c'est au grand jour en liberté. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Absolument, et qu'on vit une époque quand même d'assez de liberté, ça c'est merveilleux, c'est, tous les tabous et tous ces genres de choses, je pense qu'à une époque, vous devez en souffrir énormément, et que maintenant, je pense, ça devait créer des névroses, des psychodrames, tout ce qui peut comporter, tout ce qui est caché, et maintenant c'est merveilleux de pouvoir le vivre librement.
Alors est-ce que vous n'en souffrez pas au bout du compte de cet engagement?
De l'engagement que j'ai eu vis-à-vis des homosexuels,
oui, d'abord.
Eh bien, absolument pas, parce que j'estime qu'il faut toujours avoir le courage de ses opinions, et c'est comme ça qu'on est bien dans sa peau.
Des brumes équivoques, aux yeux d'adolescence, ont posé leur brouillon sur notre intimité. Dieu, que l'on a changé. Depuis qu'il vient chez nous, depuis qu'il vient chez nous.
Déjà, comment expliquez-vous le phénomène que les gays, enfin les homosexuels, adorent Dalida?
En tout cas, moi, je suis ravie parce que je dois dire que j'ai une faiblesse pour les homosexuels parce que je les trouve très, 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 très sympathiques et leur compagnie, elle est très agréable. Et je pense que toutes les femmes pensent un peu comme moi, je le crois. C'est vrai.
Parce qu'au départ, bon, c'était le public familial, le public est toujours là, le public familial. Mais à une certaine époque, il y a eu une éclosion, en quelque sorte, de la part des homosexuels pour Dalida.
Mais je crois aussi que les homosexuels aiment les belles femmes, c'est pour ça.
On va écouter peut-être une chanson
de Dalida. Vous savez, Marilyn, Marlène Dietrich, elles étaient adorées par les homosexuels.
Non, en fait, on aime les mythes, c'est pour ça.
Ah, voilà, bon.
C'est ainsi que nous allons refermer ici cette page d'histoire sociale. Bien sûr, la société française n'a pas encore intégré totalement les droits de chacun, ni même la tolérance, et dans ces années 80, la communauté gay, mais pas seulement, va devoir subir une crise bien plus meurtrière. En effet, à peine libéré par la loi, le sida devient une pandémie dévastatrice, ce qui donnera lieu à une autre visite. Rediffusion le lundi à midi, podcast bientôt disponible sur le site radioalpa.com, l'intégrale est sur le Mixcloud de l'émission Le Panthéon décousu. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans le premier tube français à passer sur MTV, grâce notamment au clip de Jean-Baptiste Mondino, directement inspiré du film posthume de Fassbinder, Querelle. Faut dire que le chanteur Axel Bauer y joue un petit rôle. Sorti en janvier 84, Cargo. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, quel que soit le transport le moins polluant possible, dites-vous qu'il mène toujours à bon port.
La culture gay s'exprime désormais librement.
Lanterne rouge guette l'entrée. L'alcool est mon allié. L'amour, il faut payer.
Un poteau. échouer. J'en ai marre de ramer. La détresse appelée, l'océan de mes pensées. Et cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Et cette machine dans ma tête, like motive, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon
Et je dois dire que l'homosexualité, pour moi, je l'accepte totalement, car ce sont des gens comme tout le monde, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, et chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut.